19h. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour une nouvelle saison avec notre émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Bonsoir.
Et bonsoir également à Pierre à la technique. Ça va Pierre?
Bonsoir.
Alors, dans cette émission, nous allons accueillir Ludovic. C'est un élu du Secours Populaire du Maine-et-Loire. Et puis, nous allons parler de l'actualité, bien évidemment. Nous écouterons la chronique de Céline et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, commençons par l'éditorial de Philippe.
En 2010, la FIFA confiait l'organisation du mondial de football 2022 au Qatar. Depuis, nous n'avons eu de cesse de dénoncer l'exploitation des travailleuses, travailleurs migrants dans ce riche émirat gazier. Il y a un an, à l'approche du coup d'envoi de l'événement, nous avons intensifié nos actions en France. Ensemble, sans relâche, nous alertons l'opinion publique sur les conditions de vie indignes de millions de personnes au Qatar et faisons pression sur les instances sportives qui peuvent influencer ce pays. Aujourd'hui, faisons le point sur toutes nos actions, victoires et inévitables. Inévitablement, déception.
Donc Amnesty a commencé très tôt à interpeller les dirigeants du foot français.
En 2016, déjà, nous lancions une pétition adressée à la Fédération française pour exiger le respect des droits des travailleurs migrants. Malgré les 43 000 signataires, la FFF n'a jamais répondu à nos sollicitations de rencontre. Pendant des mois, des années, nos alertes sont restées lettres mortes. Le 15 décembre 2021, nous avons déployé une immense bâche sur la façade du siège de la Fédé. Le 19 avril, après des mois d'attente, nous avons enfin obtenu un rendez-vous avec les dirigeants. Malheureusement, le président Noël Le Graët a clairement exprimé qu'aucune prise de parole publique de sa part n'était envisageable. Vendredi dernier, Amnesty International, dans une lettre ouverte, a interpellé la FF sur son silence assourdissant. Et samedi, coup de théâtre, elle est enfin sortie de son silence, agacée dans un communiqué, affirmant qu'Amnesty est une organisation admirable, merci. La fédération a déploré une campagne de stigmatisation. Concrètement, l'instance fédérale prétend avoir mis en œuvre différentes mesures de vérification concernant le respect des droits sociaux et l'application de conditions de travail respectueuses sur le camp de base de l'équipe de France. Attendons de voir.
Mais il faut aussi sensibiliser les spectateurs et les joueurs.
C'est ce que nous avons fait. Des actions ont été organisées sur le terrain à l'occasion de différents matchs et nos militantes ont interpellé l'équipe de France par mail, sur Twitter ou via des cartes postales. Depuis le 12 septembre, à deux mois du coup d'envoi, nous diffusons un documentaire sur les conditions de vie des travailleurs au Qatar. Ces projections débats sont organisées par nos militantes partout en France pour sensibiliser le plus grand monde à la terrible réalité qui se cache derrière les paillettes affichées. Nous, militants d'Angers, nous ne sommes pas en reste. Nous organisons donc mardi 18 octobre à 20h une réunion publique à la Cité des Assos sur ce thème. Venez nombreux.
Oui, alors Amnesty International a récemment commandité une étude mondiale sur ce sujet auprès de 17 000 adultes, c'est ça, dans 15 pays.
Oui, il en ressort que 73% des personnes interrogées soutiennent la proposition visant à ce que la FIFA utilise les recettes de la Coupe du Monde pour indemniser les travailleurs migrants exploités. Le soutien est même encore plus marqué chez les personnes susceptibles de regarder au moins un match du tournoi, 84%. Ces personnes souhaitent également que leurs associations nationales de foot prennent position de façon beaucoup plus ferme. Mais le plus fort soutien vient du Kenya, où 93% des personnes interrogées sont en faveur d'une indemnisation, car des milliers de Kenyans travaillent sur les chantiers.
Et alors, quelles sont les mesures que nous réclamons?
On ne peut pas revenir en arrière, mais un programme d'indemnisation serait un moyen clair et simple permettant d'apporter au moins quelques mesures de réparation pour les centaines de milliers de travailleurs travailleuses qui ont rendu possible ce tournoi. Nous proposons donc que la FIFA réserve un montant d'au moins 420 millions d'euros qui correspond aux primes offertes aux équipes participantes pour l'investir dans des fonds destinés aux réparations. Cette somme est totalement justifiable au regard de l'ampleur des violations commises et ne représente qu'une toute petite partie des 5,7 milliards euros de recettes que la fédération prévoit d'engranger. À la suite de notre demande de réparation, celle-ci nous a indiqué qu'elle étudiait la proposition, mais elle n'a jusqu'à présent pas répondu publiquement.
Et on s'étonne. Et comment réagissent les sponsors ?
10 des 14 entreprises partenaires n'ont pas fait de promesse publique de soutien, ni répondu aux demandes de discussion. Déplore Human Rights Watch, Amnesty International et Fair Square dans un communiqué commun. La mobilisation continue.
On aime le foot, mais pas le travail forcé.
Voilà.
Merci Phil.
Merci.
Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et nous accueillons maintenant Ludovic, qui est le secrétaire général du Secours Populaire du Maine-et-Loire. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission de rentrée.
Bonsoir.
Bonsoir Ludovic, merci d'avoir accepté de venir dans notre émission. Est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement l'histoire un petit peu de ce mouvement que tout le monde connaît, mais sans vraiment connaître les antécédents?
Alors je vais peut-être surprendre un peu, mais le Secours Populaire Français ne s'est pas toujours appelé le Secours Populaire Français, puisque cette association, cette institution même on peut dire, est née dans les années 30 et s'appelait à l'époque le Secours Rouge.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est l'histoire. Ouais. Et dans le Maine-et-Loire, on a des traces écrites de l'activité du Secours Populaire Français d'un courrier qui date de 1945, c'était 1945. C'était le secrétaire général de l'époque qui écrivait à la Ligue de l'enseignement pour monter une opération commune pour aider les enfants des gens qui avaient été prisonniers ou déportés.
Ah, d'accord.
Donc ça, c'est la trace la plus ancienne que on retrouve de l'activité du Secours Populaire dans le Maine-et-Loire. Actuellement, puisque bon, ça c'est l'histoire de glorieux ancêtres, il faut savoir que pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Secours Populaire Français a été, qui s'appelait à l'époque Secours Populaire de la France et de ses colonies, a été interdit par l'autorité occupante et tous les dirigeants de l'époque ont été pourchassés, déportés, voire fusillés.
Ah, oui.
Oui, c'était une organisation qui n'était pas très bien vue de la part des autorités à la fois allemandes et vichistes. Dans le Maine-et-Loire, donc, actuellement, il y a à peu près 800 bénévoles qui œuvrent chaque jour. Oui, oui, c'est une très grosse organisation. Au niveau national, en nombre de bénévoles, le Secours Populaire est une des plus grosses associations françaises en nombre de bénévoles.
D'accord.
Donc voilà, on a plusieurs permanences d'accueil où on accueille les gens qui demandent de l'aide à Angers, à Trélazé, à Sèche, à Saumur, à Cholet, etc.
Et je crois que vous avez une formule qui résume tout à fait les valeurs de votre association.
Oui, c'est un peu notre slogan qui est « Tout ce qui est humain est nôtre ». Donc ça représente bien un peu, effectivement, ça résume les valeurs du Secours Populaire qui, en gros, c'est pratiquer la solidarité en respectant la dignité des personnes.
D'accord.
Et l'été, alors l'été, on part souvent en vacances, mais il y a plein de gens, voilà, les enfants en particulier, qui partent pas, et ça fait partie de vos missions.
Voilà. Ben, déjà, il y a l'activité, on va dire, ordinaire du Secours Populaire qui ne s'arrête pas l'été, c'est-à-dire l'aide, parce que si des gens, et j'en fais partie, si des gens partent en vacances, malheureusement, tout le monde ne part pas en vacances, et il y a des gens qui ont besoin aussi d'aide pendant les vacances, donc nos permanences restent ouvertes. Tout l'été, par exemple, celle d'Angers est ouverte 6 jours sur 7, en été, en hiver, en automne, au printemps, enfin tout le temps.
Et on sait que les canicules sont aussi dangereuses pour la santé que les grands froids, en fait.
Donc voilà, on a l'aide, je veux dire, quotidienne, quoi, l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire pour les gens qui sont en grande difficulté. Et puis on a effectivement l'été des opérations plus spéciales, plus spécifiques, puisque on fait partir une cinquantaine de familles en vacances, dans des camps. Alors cette année c'était surtout en Vendée, dans des campings, où ils peuvent disposer donc d'un lieu de villégiature pendant une semaine.
C'est très très bien ça.
On fait partir aussi des enfants. Alors cette année, petite nouveauté, on avait organisé au niveau régional du Secours Populaire un centre qui s'appelle un village copain du monde, c'est-à-dire que des enfants à la fois de la région et de Guadeloupe et de Et j'ai oublié, c'est un pays africain, j'ai oublié d'où venait, se sont retrouvés pour parler ensemble, puis aussi bien sûr s'amuser, hein, puisque c'était aussi des vacances, mais pour découvrir l'autre, puisque tout ce qui est humain est nôtre, dès l'enfance, on essaie aussi de faire partager cette valeur.
Oui, et j'ai vu sur votre site que vous intervenez chaque fois qu'il y a une crise humanitaire dans le monde. Vous êtes intervenu, je crois, pour le Liban, pour le tremblement de terre en Haïti. Récemment, j'ai vu aussi qu'il y a une action sur Gaza.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Mais ça, ce sont des appels qu'on appelle les appels d'urgence, hein, qui sont faits au niveau national par le Secours Populaire, à toutes les fédérations de France. Et quand on a un peu de moyens financiers, on répond à cette demande en envoyant de l'argent qui est géré par le national pour aider directement le pays. Alors, par exemple, c'est vrai que la dernière grosse opération, ça a été l'Ukraine au moment de l'invasion de l'armée russe. Où des milliers, voire des millions d'Ukrainiens ont fui leur pays dans des conditions parfois très compliquées. Mmh. Et le Secours Populaire, en association avec des associations locales, c'est-à-dire une en Pologne, une en Moldavie, ont ouvert des centres d'accueil. Et là, il a fallu tout inventer parce que c'était des vastes hangars. Il a fallu aménager des douches, des sanitaires, etc. Et tout l'argent qui a été récolté a été investi dans ces lieux d'accueil pour accueillir des familles dans des conditions à peu près acceptables.
D'accord. J'ai vu aussi que vous avez récemment commandité un sondage sur le thème de la pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état de la pauvreté en France?
Malheureusement, ces chiffres confirment, nous, l'impression qu'on a sur le terrain depuis quelques mois. C'est le discours que je tiens depuis quelques mois. On disait que j'étais un peu pessimiste il y a 3-4 mois, mais malheureusement, les faits se confirment et me donnent raison. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la pauvreté est en train d'augmenter d'une façon assez dramatique. Enfin, voilà. On voit bien qu'il y a eu le Covid, où les couches sociales les plus précaires ont payé le prix fort. Ouais. Là, on voit arriver la crise suite à la guerre en Ukraine, et on voit l'inflation, on voit le prix de l'énergie qui sont en train de flamber. Ouais. Et ceux qui payent les premiers, bah, ce sont ceux qui ont peu de moyens.
Ouais,
et là, on voit arriver dans nos permanences d'accueil des familles qu'on ne connaissait pas, qui arrive pour demander de l'aide, et moi j'ai un peu peur des prochains mois.
Ah oui, d'accord.
Eh oui. Et autrement, quelles actions vous comptez envisager pour l'année 2022-2023? Est-ce qu'il y a des projets?
Alors, bon, il y a eu toutes les actions pour la rentrée scolaire, hein, mais ça qui sont des actions habituelles. Hein, on aide les familles les plus en difficulté à payer l'assurance scolaire, à payer les licences sportives pour leurs enfants, à payer les fournitures scolaires aussi. Mais on a un projet qui a été ralenti et mis un peu sous le boisseau suite à la crise Covid, qui l'a enfin va se concrétiser, c'est que dans chaque permanence d'accueil du Secours Populaire, on va mettre en place un atelier contre la fracture numérique, c'est-à-dire mise à disposition d'ordinateurs et de liaisons Internet et de bénévoles formés à ce travail qui vont pouvoir aider les personnes à faire leur démarche en ligne, par exemple, puisqu'il y a une étude de 2018 qui montre qui avait été commandé par le gouvernement, qui montre qu'il y a plus d'un tiers des personnes en France qui ont des difficultés à faire leurs démarches en ligne. Donc les premiers ateliers contre la fracture numérique vont ouvrir très prochainement. Le premier sera à la permanence d'Angers dans les jours qui viennent.
D'accord. Et est-ce que vous donnez aussi des cours de français aux étrangers?
Non, parce que là, il y a d'autres associations, hein, Secours catholique, Captira, etc. Donc, on évite de se monter sur les pieds. On n'a pas de cours de français.
Et pour l'hébergement, peut-être juridique?
Oui, alors en revanche, on a des bénévoles qui interviennent à titre de bénévoles, qui assurent des permanences juridiques. Hein. On travaille aussi avec le CIDFF, qui aussi assure une permanence juridique. Une permanence juridique plutôt à l'adresse des femmes. Et chaque semaine, il y a deux ou trois permanences qui permettent d'accueillir les gens qui en ont besoin.
D'accord. On peut parler peut-être du nerf de la guerre, donc ou de l'air, voilà, l'argent. Donc ce sont des subventions, des entreprises, des fondations, des dons de personnes, soutiens ordinaires, je dirais.
Ordinairement, c'est-à-dire avant période Covid, parce que là, les choses ont beaucoup évolué depuis. Le Secours Populaire s'autofinance à peu près à 75-80%, à la fois parce que on a des activités qui rapportent de l'argent, comme nos boutiques solidaires où on vend, vend les vêtements, et donc ça, il y a des bénéfices qui sont faits. Et puis les dons des particuliers, hein, qui sont très importants, et qui arrivent à chaque crise. Par exemple, lors de la crise ukrainienne, les dons sont arrivés en nombre. Depuis le Covid, les choses ont un peu changé parce que les pouvoirs publics nous ont très largement aidés face à la crise alimentaire qui pointait son nez. Et là, j'espère que les pouvoirs publics ne vont pas nous oublier parce que les prochains mois vont être tendus, très tendus.
D'accord. Autrement, est-ce que vous pouvez nous dire comment nous pouvons vous contacter, comment les bénévoles peuvent aller vers vous ?
Alors, bien sûr, on a besoin de bénévoles, hein, surtout dans certaines structures. Alors, s'il y a des auditeurs de Sèche-sur-le-Loir qui nous écoutent actuellement et de Longué-Jumelles, on vous attend avec impatience parce qu'on manque de monde à Sèche et à Longué-Jumelles. Donc, il suffit, si vous avez envie de venir aider le Secours Populaire, quelles que soient vos compétences et vos souhaits de bénévolat, on vous trouvera quelque chose, ne vous inquiétez pas. Il suffit d'appeler le 02 41 88 58 13. C'est le numéro de téléphone de la Fédération de Secours Populaire du Maine-et-Loire. Et on vous accueillera pour un entretien, pour voir un petit peu ce que vous souhaitez faire.
D'accord, sinon il y a page Facebook.
Voilà, page Facebook, hein, il suffit de taper Secours Populaire Maine-et-Loire et vous trouverez la page. Oui.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci Ludovic.
Merci.
Et c'est le moment de notre pause musicale.
A park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
Alors, vous avez peut-être reconnu cette magnifique chanson. Pour commencer une nouvelle saison d'Un bon pied, on a choisi Life de Dizzy. C'est une chanson de 1998. Merci Pierre.
Oui.
Et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains.
Du Kurdistan à Téhéran, la colère ne retombe pas en Iran. Pendant plusieurs jours, villes et universités ont été le théâtre de manifestations contre le régime. La mort de Mahsa Amini, le 16 septembre, après son arrestation par une patrouille de la police des mœurs, a fait office de catalyseur. La jeune femme kurde de 22 ans, arrêtée dans une rue de la capitale pour un foulard jugé mal ajusté, est devenue un nouveau symbole de la brutalité de l'État iranien. Au moins 54 personnes auraient été tuées et des centaines arrêtées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Par ailleurs, une ONG kurde a rapporté lundi que deux jeunes lesbiennes et militantes LGBT avaient été condamnées à mort en Iran, accusées de promouvoir l'homosexualité. L'autorité judiciaire a confirmé la condamnation à mort pour corruption sur terre des jeunes femmes. Il s'agit de la charge la plus grave du code pénal iranien.
Une personne meurt actuellement de faim dans le monde toutes les 4 secondes. C'est ce qu'ont dénoncé mardi 20 septembre plus de 200 organisations non gouvernementales. Ces organisations venant de 75 pays différents ont signé une lettre ouverte pour exprimer leur indignation face à l'explosion du nombre de personnes souffrant de la faim et pour faire des recommandations, alors que 345 millions de personnes dans le monde souffrent de faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019.
Après des mois d'occupation russe, les autorités ukrainiennes ont repris le contrôle d'Izioum, dans la région de Kharkiv, et ils ont découvert un charnier contenant plus de 440 tombes. Des centaines de corps de civils et de militaires ukrainiens ont été enterrés dans une forêt. Cette macabre découverte confirme nos craintes les plus sombres. Le peuple ukrainien et le monde entier méritent de savoir comment sont mortes ces personnes. Nous demandons justice et réparation pour les victimes et leurs familles.
En mars 2022, rappelez-vous, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été placé en détention administrative, sans charge ni jugement. Puis, le 5 juin, sa détention a été prolongée de 3 mois par une cour militaire israélienne. Le 14 juillet dernier, il avait dénoncé sa détention arbitraire dans une lettre à Emmanuel Macron. Les autorités israéliennes lui en font payer le prix maintenant. Cet avocat, qui travaille pour une ONG de défense des prisonniers politiques palestiniens, a déjà été arrêté 6 fois et a passé des années en détention sans aucune preuve. Les autorités israéliennes ont déjà pris des mesures en vue de l'annulation de son statut de résident.
Dans un contexte de multiplication des enquêtes sur les refoulements à la frontière gréco-turque, des élus européens écologistes appellent la Commission à geler les fonds destinés aux pays, comme la Grèce, ont recours à cette pratique illégale. Athènes a toujours nié, malgré les preuves trouvées lors de nombreuses enquêtes de médias, d'ONG ou du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les gardes frontières grecques et la police n'ont pas répondu à la demande d'entretien des eurodéputés. Les abords de la rivière Evros, qui marque la frontière gréco-turque, ne sont pas autorisés. Pour l'instant, la Grèce n'a pas encore été condamnée, mais plusieurs cas sont examinés par les instances judiciaires européennes.
Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est accusé d'avoir trompé des migrants vénézuéliens, en les envoyant sur une île huppée du nord-est des États-Unis et d'instrumentaliser le thème de l'immigration à des fins politiques. Ceux-ci l'ont poursuivi pour s'être livré à un stratagème frauduleux et discriminatoire afin de les relocaliser dans cette région des États-Unis. Le gouverneur aurait appâté les plaignants en exploitant leurs besoins les plus fondamentaux et en faisant de fausses promesses d'emploi et de logement.
Des détenus de la prison des Baumettes à Marseille dénoncent le dispositif de fenêtres anti-bruit. Elles ont saisi le tribunal administratif pour protester, notamment contre l'impossibilité de les ouvrir en période de forte chaleur. Vous imaginez, cet été, elles ont suffoqué dans leurs cellules sans pouvoir ouvrir la fenêtre. Elles demandent donc à en référer la nomination d'un expert en hygiène et salubrité avec pour mission de mesurer les conséquences de cette installation sur 3 étages dans le quartier des femmes et celui des arrivants hommes. Ces fenêtres anti-bruit ont déjà été critiquées par le contrôleur général des lieux de privation des libertés dès mars 2020. Et nous retrouvons notre amie Céline pour une nouvelle chronique. Les nouvelles ne sont pas très bonnes.
Bonsoir Valérie, bonsoir à toutes et tous.
Je vous avais laissé au mois de juin sur une touche d'optimisme avec l'histoire d'Amidou. Amidou qui poursuit son chemin, qui a obtenu son CAP et qui a intégré une première bac pro en électricité. Mais voilà, une nouvelle chronique qui réouvre malheureusement le dossier des familles à la rue. Parce que le monde d'après n'est pas celui que nous avions rêvé, parce que l'hébergement d'urgence est saturé, parce que les jokers ont de nouveau ouvert grand leurs portes. Mardi 20 septembre, ils ont été 18 enfants, dont le plus jeune a 9 mois. 15 parents, dont des femmes seules, 9 familles donc, qui étaient sans hébergement. Et ils sont Cathy, Mamadou et leur fille de 1 an. Une famille avec 5 enfants qui se sépareront pour être accueillis chez deux jokers. Auréa et son fils de 5 ans. Edwige et ses deux garçons. Gilrita et sa fille de 6 ans. La grande famille albano-camerounaise. Une autre grande famille avec 4 enfants de 8, 5, 2 et 9 mois. Une famille érythréenne avec un titre de séjour de 10 ans, arrivé il y a 3 ans, un papa qui travaille et leur fils de 6 ans scolarisé en CP. Dans la journée, la maman attend. Elle est enceinte de 4 mois. Elle attend dans les locaux d'une association.
Eh oui, on y a tous cru au monde d'après. Allez, c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Le mercredi 5 octobre 2022 à 18h30, à l'Institut Municipal, place Saint-Éloi à Angers, Lionel Salvert, référent territorial Pays de la Loire de Météo France, propose une conférence sur le réchauffement climatique.
Le samedi 8 octobre à la salle des Trois Mâts, place des Justices, il y a un concert du Léon Jazz Band avec un chanteur musicien, Ibrahima Diawara. C'est au profit de l'association Angers Bamako Mali.
Le 15 octobre à 20h à la MPT Mon Plaisir, la compagnie de théâtre L'Envol jouera la pièce Migrants pour soutenir l'action de l'association Asile et Partage d'Angers, association qui vient en aide aux mineurs isolés étrangers. L'œuvre signée Matéi Wisniewski est composée de scénettes comme autant de visions d'une réalité, celle de la crise migratoire. La réservation est conseillée.
Et le 18 octobre à la Cité des Assos à 20h, Philippe Tunois. Déjà dit, Amnesty Angers organise une soirée mondiale Qatar autour de l'exploitation dont sont victimes les travailleurs migrants sur les chantiers de la Coupe du Monde. Et il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Ludovic du Secours Populaire pour sa participation à l'émission. N'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr et vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page de Amnesty Angers. À très bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée.
À bientôt.
Radio G 101.5 FM.